9h30, vous êtes toujours à l'écoute du 9 sur les ondes de CFAQ. Le service à la vie étudiante a publié un article récemment qui s'intitule « Comment maximiser vos prêts et bourses ». On sait que les prêts et bourses, souvent, c'est un peu le cheval de bataille de la communauté étudiante. Et pour en parler, ben justement, on reçoit Geneviève Arsenault, secrétaire à l'aide financière, et Pierre Delaunay, directeur de l'aide financière. Bonjour à vous deux, vous allez bien?
Oui. Bonjour Alexandre.
Oui, très bien. Merci de nous recevoir.
Merci de prendre le temps de venir nous parler un peu, démystifier un peu ces prêts et bourses-là. Avant d'entrer justement au cœur du prêt et bourse, je veux qu'on parle un peu du service à l'aide financière, Pierre, parce que c'est un gros service ici au sein de la vie étudiante. Ça se décline, il y a plusieurs facettes un peu à cette aide financière-là. Je ne sais pas si tu peux nous parler un peu de ce que vous faites au service à l'aide financière ici.
Bien, absolument. En fait, je pense que tu le nommes bien, le service d'aide financière se décline en trois parties, en trois secteurs. Le premier, c'est les prêts et bourses gouvernementaux, l'objet pour lequel on est ici aujourd'hui. Ouais. Le deuxième, c'est les bourses de soutien financier. Alors, on administre un peu les programmes de la Fondation Force Études, entre autres. Alors, donc, on pense entre autres au programme études de travail, des bourses de soutien pour soutenir les personnes étudiantes qui rencontrent des difficultés financières. Et le but, c'est qu'ils n'abandonnent pas leur projet d'études. Alors, on est là, on est une ressource. Et on fait aussi l'éducation, la culture financière. Et puis le troisième secteur, je dirais, c'est tout l'aspect des bourses. Alors, les bourses de premier cycle, les bourses de la Fondation, les bourses de deuxième et troisième cycle supérieur. Alors, je dirais, c'est les trois secteurs là, de l'aide financière.
Évidemment, on entre un peu, qui dit période des impôts, dit période aussi de confirmation des ressources financières. Donc, les étudiants et étudiantes doivent justement envoyer leur feuillet d'impôts et faire des vérifications pour poursuivre ou non leurs prestations de prêts et bourses. Geneviève, c'est une période assez charnière, évidemment, dans ce cycle-là. Parle-nous peut-être d'entrée de jeu sur l'importance de cette période-là, puisque ça peut impliquer éventuellement.
Oui, tout à fait. En fait, pour la plupart des personnes étudiantes, ils vont recevoir une demande de confirmation des ressources financières, qui est un formulaire qui doit être rempli avant le 19 février. Donc là, on est vraiment à la fin de cela. Les ressources financières peuvent être confirmées par après. Mais ce qui se passe si on dépasse ce délai-là du 19 février, c'est que les versements de mars et d'avril vont être suspendus tant que les ressources financières ne seront pas confirmées. Donc, en fait, il faut confirmer ses revenus de 2025. Mm-hmm. Pour la plupart des gens, ça va être surtout du revenu d'emploi, mais il peut y avoir également des bourses d'études. Et c'est vraiment juste ce qui a été reçu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025, qui, là, va être confirmé. Et naturellement, le ministère va, avec ça, ajuster les montants de prêts et bourses restants. Pour ceux qui restent seulement mars et avril, donc qui ne seront pas aux études à la session d'été, ça peut être un impact assez important. Surtout, il faut se souvenir que peu importe ce qu'on a entré dans cette confirmation-là, qui est une confirmation obligatoire, il est quand même possible par la suite de faire des changements. Donc, jusqu'au 30 avril 2026, on peut modifier en tout temps et c'est recalculé en 24 heures. Donc, c'est des changements qui sont très simples. On n'a pas à envoyer nos documents d'impôt, nos feuillets, tout ça. Ça va être seulement à la demande du ministère si le ministère, après vérification, donc à partir du 1er mai, le ministère va commencer à valider les informations qui ont été entrées versus ce qui a été déclaré à l'impôt. Et là, s'il constate une différence importante, va demander les documents justificatifs. Donc, si on veut s'éviter ces démarches-là qui sont un peu plus lourdes, qui sont un peu plus embêtantes, le mieux, c'est de bien faire sa déclaration obligatoire. Et si on se rend compte qu'on a fait des erreurs ou qu'il y a eu des différences par la suite, on modifie jusqu'au 30 avril.
Vous devez... je ne sais pas si ça s'est accentué. C'est peut-être ma perception de moi, l'éternel étudiant, là, mais j'ai l'impression que les cheminements à l'université se sont peut-être un peu complexifiés avec les années des programmes. Ici, à l'université aussi, ça a toujours été compliqué avec le programme Co-op aussi. Il y a des sessions en continu et tout ça. Il y a toujours un peu de particularité. On n'a pas le temps de rentrer dans ces particularités-là. Mais est-ce que vous avez constaté, ça fait un petit moment, là, Geneviève, je pense que tu travailles ici, est-ce que vous avez constaté justement ben, je sais pas, soit une hausse de demande ou justement cette complexification-là qui peut-être, au niveau du prêt et bourse, le modèle de base ou standard des prêts et bourses est peut-être moins adapté à certains parcours scolaires. Est-ce que vous avez constaté peut-être une hausse de demande ou de ces particularités-là?
C'est difficile pour nous d'établir des statistiques en ce qui concerne le nombre. En général, comme le programme relève du ministère, on reçoit les statistiques en retard.
Ouais.
On va le dire comme ça. Donc, on n'a pas nécessairement de suivi, mais ce qu'on constate, c'est une diversification des programmes, une diversification des parcours, de plus en plus de retours aux études également, où là, si on a reçu des prêts et bourses antérieurement, par exemple, quand on a fait un premier bac, là, par la suite, on peut en manquer pour le reste de nos études. Une diversification aussi des provenances, des statuts, de plus en plus d'études à temps partiel ou de programmes en concomitance, des doubles diplomations, etc. Donc, ça se diversifie. Ce qui est bien, c'est que ça nous donne toujours une occasion de renouveler puis de développer nos compétences. Mais c'est sûr que ça peut rendre les choses un peu plus complexes quand vient le temps de faire sa demande de prêts et bourses ou de faire un suivi, de budgéter également. De là, toute l'importance là, de ne pas hésiter à faire appel à nous parce que ça peut devenir effectivement un petit peu difficile de s'y retrouver. Là. Nous, on est habitués, on a tout vu, donc profitez de nos services.
Je veux qu'on essaie peut-être de démystifier certaines idées préconçues qu'on a envers les prêts et bourses. Je ne sais pas si on peut parler de la notion des crédits aussi, là, qui est quand même assez importante, à savoir quand est-ce que nos parents, on n'est plus à la charge de nos parents et tout ça. Là. Quels sont les mythes justement par rapport aux crédits universitaires ou les demandes que vous avez des fois là, par rapport à...
En fait, il y a un mythe tenace qui circule sur la fameuse bourse de 90 crédits qui n'existe pas, en fait. C'est que... Oui, c'est ça. C'est toujours un peu décevant lors de l'appel. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même des avantages à avoir terminé 90 crédits. J'explique. L'aide financière aux études considère qu'une personne étudiante qui a complété 3 années d'études universitaires, tout programme confondu, et le « et » est très important, il faut respecter les deux aspects. Donc, 3 années d'études universitaires, tout programme confondu, et obtenu 90 crédits, mais dans un même programme d'études. À partir de ce moment-là, l'aide financière aux études considère qu'on a l'équivalent d'un diplôme de premier cycle, donc on n'est plus sous la contribution de nos parents. Évidemment, ça se traduit souvent par devenir admissible aux prêts et bourses alors qu'on ne l'était pas avant.
Ouais.
Devenir admissible à des montants de bourses qui s'ajoutent, par exemple, au montant de prêts qu'on avait. Mm-hmm. Ou évidemment à des montants plus importants. Sauf que ce n'est pas un automatisme. Il n'y a pas non plus de montant forfaitaire accordé à ce nouveau statut-là d'autonomie. C'est simplement un facteur dans le calcul des prêts et bourses. Mais évidemment que le salaire d'un ou des deux parents est en général un poids assez important dans la balance entre les dépenses et les revenus d'un étudiant. Donc, à ce moment-là, ça se traduit souvent. Fait qu'il y a souvent tout simplement une erreur dans la cause à effet. Mais effectivement, ça peut être quelque chose qui change radicalement. Donc, gens qui avaient un parcours scolaire où vous faites plus de 90 crédits au premier cycle, sachez-le, là, à la fin de votre parcours, ça pourrait changer des choses pour vous.
Mais pourquoi, justement, est-ce que l'aide financière aux études calcule le salaire des parents? Pourquoi est-ce qu'on est considéré à leur charge?
Pierre, voulais-tu répondre?
Ça fait partie de la loi. Alors, les parents ont vraiment une responsabilité de contribution là, au moment où est-ce que leurs enfants fréquentent les études. Là, oui.
Puis, il n'y a aucune façon de contourner ça de quelconque façon. Soit, je sais que quand les parents sont séparés, il y a d'autres recours, là, si on veut. Là. Je pense qu'on peut être à la charge de l'un ou de l'autre. Là, mais c'est vraiment la loi qui veut ça. Puis... Le parent doit contribuer. Est-ce que l'étudiant pourrait retourner vers ses parents puis lui demander de contribuer? Je ne sais pas. Ça sort de votre responsabilité.
La réponse est oui.
Oui, absolument.
Ça s'est déjà vu.
Ah oui? OK.
Je salue ma collègue et coordonnatrice Lucie Champagne qui a déjà vu cela dans sa longue carrière chez nous. Mais oui, ça se pourrait effectivement. Une personne pourrait entreprendre des démarches légales pour obliger ses parents à apporter cette contribution-là. Donc, c'est pour ça que le ministère le demande.
OK. Ben, prenez des notes, chers auditeurs. On ne veut pas non plus créer des froids dans le temps des fêtes, là, mais oui. C'est ça. Donc, les parents ont une contribution à apporter à tout ça. Je veux parler peut-être d'un autre mythe. C'est peut-être celui d'être... la question des conjoints de fait aussi. Mm-hmm. Moi, je sais que ça a été une de mes situations. Donc, quand on habite avec... quand on est en couple et qu'on habite avec notre conjoint, ça change un peu quelque chose dans ce calcul.
En fait... Quand on est... Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Donc, quand on est en couple, ça ne change rien si on n'est pas unis civilement ou mariés. Donc, union civile et conjoint de fait sont deux statuts différents. Union civile, ça vient vraiment avec un papier légal. Donc, c'est comparable au mariage en termes légaux. Pour ce qui est du statut de conjoint de fait, en fait, c'est que si on habite avec notre partenaire et qu'on n'a pas d'enfant qui habite avec nous, aux yeux des prêts et bourses, on est célibataires tous les deux. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le salaire de l'un et de l'autre ne va pas influencer le dossier de l'autre. À partir du moment où, par contre, on a des enfants, bien là, à ce moment-là, on va être considéré comme étant en vie maritale. Au niveau de la demande de prêt et bourse, c'est que ça, ce n'est pas mentionné comme tel. Donc, on va se déclarer au niveau de l'état matrimonial célibataire, tous les deux. Mais ensuite, on va pouvoir déclarer qu'on habite en couple avec enfant. Et là, à ce moment-là, le salaire de l'un et l'autre va influencer le dossier de chacun. Donc, au moment où on remplit, puis la question de l'état marital vient avant, l'état matrimonial, pardon, vient avant la question des enfants, mais là, ça peut être embêtant. Donc, ne pas cocher union civile si vous êtes conjoint de fait.
Sinon, il y a la fameuse question du 25 ans aussi. Là. Est-ce que ça nous donne pleine autonomie ou non? Je te renvoie la balle.
Oui, souvent, pour des choses comme les assurances, par exemple, à ce moment-là, on sera plus considéré, on ne pourra pas avoir accès aux assurances de nos parents. Donc, c'est une situation qui est valable pour des choses comme les assurances. Mais au niveau des prêts et bourses, ce n'est pas un critère d'autonomie.
Okay.
À ce moment-là, ce n'est pas parce qu'on atteint 25 ans que la contribution de nos parents ne sera plus là. Donc ça, c'est un mythe aussi là, qui est un petit peu la vie dure. Je vais en profiter pour nommer, en fait, ces situations d'autonomie-là. Donc, le fait d'avoir un diplôme de premier cycle, le fait d'avoir 90 crédits dans un même programme d'études et 3 années universitaires complétées, si on a été 24 mois sur le marché du travail ou à subvenir à nos besoins sans être aux études à temps plein en même temps, et ça, c'est l'élément important. Mm-hmm. Si on est marié, si on habite en couple et qu'on a des enfants avec nous, il y a différentes aussi petites situations un petit peu plus... moins courantes, un peu plus exceptionnelles qui sont là aussi. Mais ce sont des critères d'autonomie être inscrit au deuxième cycle, même si on n'a pas de diplôme de premier cycle. Je pense, par exemple, aux programmes comme maîtrise en physiothérapie ou ergothérapie. À ce moment-là, eux font un passage de premier cycle à deuxième cycle, mais ils n'ont pas de diplôme de premier cycle. Donc, okay. À partir du moment où on est inscrit au deuxième cycle, peu importe si on a le diplôme ou non, la contribution des parents change, s'en va. Donc, ça, ce sont des situations d'autonomie qu'on appelle.
Puis pourquoi, justement, il y a toujours la question du prêt et la question des bourses. Pourquoi est-ce qu'un étudiant peut recevoir une portion de prêt, même si la portion de bourse est calculée aussi?
Oui, en fait, c'est souvent une surprise là, si on ne s'est pas informé avant ou si on n'est pas habitué. Par exemple, le ministère va nous calculer un montant de 10 000 en bourse, 5 000 en prêt pour l'année, ce qui nous donne un total de 15 000. Je vous prends des beaux chiffrons pour faire d'exemple. Donc, on va recevoir les premiers versements, puis on se dit, minute, là, je reçois juste du prêt, comment ça se fait? Mm-hmm. En fait, tout l'argent est versé d'abord sous forme de prêt, donc on va recevoir le montant total, donc 15 000, réparti tout le long de l'année pour les mois pour lesquels on est aux études. Et par la suite, le ministère, à partir du mois de mai, comme je le disais tout à l'heure, va commencer la vérification des revenus. Au besoin, s'il constate un écart ou s'il y a eu des changements dans les revenus en cours d'année, il va ajuster cette proportion-là de prêt versus bourse. Et à la suite de ça, lorsque tous les versements ont été faits puis que la vérification des revenus a été faite, il va faire ce qu'on appelle la conversion de prêt en bourse. Essentiellement, le ministère va prendre, j'ai dit 10 000 en bourse, va prendre 10 000, le rembourser pour vous à votre banque, ce qui va faire passer votre dette de l'année de 15 000 à 5 000. Mm-hmm. Donc, il y a plusieurs personnes qui voudraient utiliser, entre guillemets, seulement la portion bourse et mettre la portion prêt de côté. C'est tout à fait possible de le faire, vous êtes dans votre bon droit, c'est même une stratégie très intelligente financièrement. À ce moment-là, c'est à vous de calculer. Par exemple, vous faites un prorata, puis là, vous dites, bon, bien, sur chaque versement, je vais en placer, disons, les deux tiers ou je vais en utiliser les deux tiers. Mais c'est quelque chose que vous devez faire par vous-même manuellement, donc mettre ces sous-là de côté. Puis vous pouvez rembourser à ce moment-là. Il y en a qui remboursent chaque année ce montant-là, qui remettent leur prêt à zéro ou qui tout simplement vont attendre la fin de leurs études pour faire le remboursement.
Mm-hmm. On se rappelle, on a une période de grâce aussi à la fin des études avant de commencer les remboursements. Donc, c'est bénéfique. En terminant, justement, les services à la vie étudiante, le service à l'aide financière, c'est un service qui est offert à la communauté étudiante. Comment se déroule l'accompagnement de votre côté? Puis à quel moment de l'année les étudiants ont peut-être le plus avantage à venir vous consulter pour toutes ces technicalités-là? Là?
Oui, en fait, d'une façon générale, venez nous voir avant.
Oui.
Avant de faire votre demande de prêts et bourses, avant de commencer votre programme. Avant de remplir la confirmation de ressources financières, consultez-nous. Donc, les modifications ou le remplissage des formulaires, l'accompagnement est toujours plus facile à faire avant. Pourquoi? Bien, parce qu'on a une meilleure prise sur la situation. Mm-hmm. Donc, on est en mesure de vous aider à voir venir les choses, tout simplement. Après, il est toujours temps de nous contacter, évidemment. Ouais. C'est toujours un bon moment, mais il y a des meilleurs moments que d'autres. c'est de cette façon-là. L'accompagnement se fait tout au long. Donc, on était présent aux portes ouvertes pour les personnes étudiantes mm-hmm. qui souhaitent venir étudier ici. On commence déjà à leur donner de l'information. On peut en donner avant que vous fassiez la demande de prêt et bourse jusqu'à temps que vous soyez rendu à la période de remboursement. Et il y a encore des choses qu'on peut faire pour vous à ce moment-là. Donc, tout le long du parcours, vraiment. Mais évidemment, l'idéal, le message qu'on passe beaucoup, c'est suivez votre dossier puis n'ayez pas peur de nous appeler. Vous seriez surpris des choses qu'on va vous apprendre.
Donc, on vous écrit, on vous appelle, on vient vous voir directement. C'est quoi les méthodes les plus efficaces là, pour...
Tous les moyens sont bons.
Ah oui, bon, OK. Bon, parfait.
Effectivement, tous les moyens sont bons. Téléphone, courriel. Courriel, ce qui est bien, c'est que des fois, on jase avec nos collègues de classe dans un 5 à 8 et là, oups, on a un petit questionnement par rapport à une situation. Bien, vous pouvez nous envoyer un courriel directement mm-hmm. à cette heure-là, même si nos bureaux sont fermés. Évidemment, nous, on vous répond sur les heures d'ouverture, ouais. mais ça vous permet de poser vos questions exactement au moment où elles apparaissent. Donc, parfois, ça permet de se garder la tête libre. Sinon, téléphone, puis en personne, bien, on est toujours ravis de vous recevoir également.
Exactement. Au deuxième étage du pavillon de la vie étudiante, le E1. Donc, Geneviève Arsenault, secrétaire à l'aide financière, et Pierre Delaunay, directeur de l'aide financière. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de démystifier certains mythes entourant l'aide financière aux études. N'oubliez pas de confirmer donc vos ressources financières avant ce jeudi. Merci beaucoup et puis merci d'offrir ce service-là également. Là, c'est bien important.
Merci pour l'invitation, Alexandre.
Oui, merci.
On s'en va en publicité et vers 10h, on va s'entretenir avec l'auteur-compositeur-interprète cherbourgeois Frank Cousteau. Restez là.